c'est du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mettez à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Nous avons entendu cette exhortation de la bouche de saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. Mettez à profit le jour présent, le temps présent, car les jours sont mauvais. Il me semble que, sans la citer textuellement, ces phrases dont Benoît XVI semble faire comme la devise de cette année pour la foi, que l'annonçait la semaine dernière, eh bien, il y a deux jours, le 11 octobre dernier. Les jours sont mauvais. Ben oui, c'est effectivement ce que le Saint-Père déplore en substance lorsqu'il constate dans son homélie, qui est une sorte de synthèse de tout son enseignement, en fait, depuis qu'il s'appelle poste au Saint-Office, le pape n'a cessé de déplorer le vide qui s'est propagé. Je cite là l'homélie d'ouverture de l'année pour la foi. Le 11 octobre, le vide s'est propagé, le désert s'étend. Pas même de Benoît XVI. Le désert s'étend hors de l'Église, bien sûr, dans cet Occident sécularisé, pas le mépris franc et direct à l'égard du Christ et de son Évangile. Le vide donc ad extra, à l'extérieur de l'Église, mais aussi le vide dans les rangs de l'Église. Et voilà ce qui affecte le pasteur commun de tous les fidèles, notre Saint-Père. Le pape est blessé par cela. Le désert, si seulement. Le désert gagne les rangs de l'Église chez les chrétiens même pratiquants, puisque la foi s'attiédit et l'on en vient à relativiser les dogmes de notre belle religion et à faire un tri entre ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Faire un tri, en grec, ça porte un nom, ça s'appelle l'hérésie. Voilà. Alors face à ces jours mauvais, à quoi nous invite le Saint-Père, comme saint Paul dans son épître, mettez à profit le temps présent. Et que Benoît XVI encourage à faire, il encourage en réalité à faire ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Cette nouvelle évangélisation, on en a plein la bouche aujourd'hui, c'est un terme qui n'est pas nouveau, mais que Jean-Paul II prononçait régulièrement au cours de ses meetings. C'est quelque chose que, sur un mode peut-être un peu plus discret, Benoît XVI a tout à fait à cœur de promouvoir. Ça vise en fait tout à la fois à raviver la foi chez les catholiques que nous sommes souvent découragés par le marasme actuel. Ensuite, à favoriser le retour au bercail des baptisés qui sont tombés dans ce que Jean-Paul II appelait l'apostasie silencieuse, c'est-à-dire que pour divers arguments de convenance, on est venu petit à petit, non pas à nier d'emblée les dogmes, mais premièrement parce que cela ne nous arrangeait pas trop au plan pratique, à quitter. Voilà. Donc, deuxième chose, ramener au bercail les baptisés qui sont partis de l'Église sur la pointe des pieds. Et troisième chose, depuis toujours et pour toujours, laisse auprès des païens, il s'agit d'annoncer l'Évangile auprès des païens. Voilà donc ce que le Saint-Père veut pour nous, que dans ces temps qui sont mauvais, nous remplissions toujours et encore cette mission de l'Église, d'abord de nourrir notre propre vie de foi, nous les pratiquants, ensuite de ramener les apostats silencieux au bercail, et enfin de promouvoir la conversion des païens. Alors j'aimerais attirer votre attention sur deux points. Premièrement, la signification des dates d'ouverture et de fermeture de cette année, qui ne sont pas choisies au hasard, parce que Benoît XVI a assez peu l'habitude de faire les choses au hasard. Voyez. Et puis d'autre part, les moyens que promeut Benoît XVI pour que nous puissions efficacement, ce sont ces termes, efficace, que nous puissions efficacement revenir à une vie de foi plus authentique et proposer la doctrine catholique auprès de nos frères qui se sont éloignés du Christ. Premièrement donc, je vais commencer par la date de clôture. Ça vous paraît peut-être étrange, mais c'est en bon aristotélicien et thomiste que je veux considérer d'abord la fin, avant d'œuvrer, avant de réaliser, voir d'abord où on va. Et on va, parce que le Saint-Père l'a voulu, on s'oriente vers la fête, la solennité du Christ, roi de l'univers. Je dirais que c'est dans le Nouvel Ordo, peu importe. Le Saint-Père, en fait, rappelle à toute la chrétienté que les plans de l'Église n'ont pas changé, que l'aspiration qui doit être la leur, c'est l'instauration du règne du Christ. Notre année de la foi, mais en fait toute notre vie de foi, doit être orientée vers le Christ roi. Notre foi catholique n'est pas une adhésion à une somme d'essais moraux ou à une somme de vérité dogmatique. Elle est d'abord une adhésion à la personne du Christ qui entend régner sur toute la création. Ça nous paraît peu de chose parce que nous sommes nous convaincus qu'il faut que le règne du Christ advienne. D'ailleurs, nous le disons dans le Pater régulièrement, plusieurs fois par jour. Mais c'est particulièrement culotté à une heure où un certain nombre de catholiques ont réduit la voilure. Soit parce qu'ils étaient découragés de voir que l'on rejetait le Christ, alors eh bien, ils ont renoncé à l'ambition première d'établir le règne du Christ, soit par accommoder de toutes sortes d'idéologies qui ne veulent pas que le Christ règne. Alors à la face de ces chrétiens et à la face du monde entier, cœur, et sur les cœurs des seuls croyants, et uniquement dans la sphère privée, voilà que le Saint-Père, clairement, haut et fort, dit face de tous ces gens-là, nous avons toujours l'ambition et de le faire régner sur toutes les réalités de ce monde. Père s'inscrit dans la ligne de son illustre prédécesseur, Pidis, Saint Pidis, dont la devise était, vous la connaissez, instaurare omnia in Christo, tout instauré, tout restauré dans le Christ. Vous reprenez les termes de Saint Paul, ce Saint Paul dont nous avons peut-être quelques cris de guerre, quelques exhortations, hein, que tout genou fléchisse au ciel, sur terre, aux enfers, au nom de Jésus. Voilà, qu'enfin le Christ soit tout en tous parmi nous. Voilà donc cette ambition de l'Église qui est rassérénée par le pape. Il remet devant nos yeux ce clair objectif vers lequel nous devons tendre. Il n'y a pas d'autre objectif que ce règne du Christ, non seulement sur nos cœurs dans la sphère privée, mais également sur toutes les réalités de ce monde. Je vous ferai remarquer que c'est d'ailleurs le dernier mot de l'Apocalypse que celui-ci. Maranatha, viens Seigneur Jésus, pas seulement pour demain, pas seulement le jour de la parousie glorieuse du Christ où enfin éclatera la face de toute créature, qu'elle soit ou non docile au Christ, qu'elle veuille ou non le raconter à la nécessité de ce règne universel du Christ. Cela, il y a d'abord cela, une allusion à ce qui va... Mais il y a également une claire demande à l'égard du Christ, qui est l'époux, à venir au secours de l'épouse. Viens Seigneur Jésus, venez Seigneur Jésus, hic et nunc, maintenant, et régnez sur nous dès maintenant. Voilà donc, vous voyez, la signification profonde et la claire de ce choix de la solennité du Christ, roi de l'univers, pour clore cette année de la foi. La foi doit nécessairement tendre vers l'instauration du règne plénier du Christ et dès cette terre. Dans cette perspective de l'avènement du règne du Christ, et dès aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi le pape a voulu que cette année de la foi s'ouvre le 11 octobre. Le 11 octobre, avant d'être l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, avant d'être la commémoration du 20e anniversaire du catéchisme, de la promulgation du catéchisme de l'Église catholique, c'est, nous le savons, nous qui vivons, de la maternité divine. Benoît XVI, voyez-vous, même si cette fête a disparu du nouveau calendrier liturgique, Benoît XVI y fait allusion explicitement dans son homélie. Il confie les travaux de cette année à Notre-Dame, non pas à Notre-Dame montée dans son corps et dans son âme, par l'Assomption, non pas à Notre-Dame de Cana, non pas à Notre-Dame dans n'importe quelle autre circonstance, à l'Immère de Dieu. C'est explicitement et c'est délibérément que le Saint-Père a choisi que cette année s'ouvre sur la pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien évident entre Marie-Mère de Dieu et le Christ, roi de l'univers. Enfin, de vouloir établir le règne du Christ passe pas par la contemplation du mystère de Marie-Mère de Dieu, mais par la conformation à Théotokos, à Marie-Mère de Dieu. Théotokos est confirmé, en grec ça veut dire Mère de Dieu. Voilà, c'est ce dogme qui a été dégagé par le Concile d'Éphèse, je vous le rappelle. Et il n'y a pas d'autre voie pour l'Église, pour l'instauration, en vue de l'instauration du règne du Christ, que de passer par le mystère de la maternité divine. Je m'explique. Entre Marie et l'Église, je n'invente rien ici, hein. Il y a un parallèle. Marie engendre pour la première fois le Seigneur Jésus, prête son concours et elle le suit, elle l'aide sur le chemin qui l'amène à régner. Elle est la mère du Christ-Roi. Elle est la première mère du Christ-Roi. L'Église, à son tour, engendre comme une deuxième fois, comme par surcroît, le Christ-Roi. Elle l'engendre dans chaque de ses fils. Cette Église mère. Vous voyez ce parallèle entre l'Église et la Vierge Marie. Or, il y a en Marie polarité. À la fois, elle est persuadée qu'au plus intime d'elle est, elle est persuadée qu'elle est la mère, elle est persuadée que son fils va régner quoi qu'il advienne, parce qu'elle a entendu les paroles de l'ange à l'Annonciation, parce que son cœur a frémi, parce qu'elle a exulté de joie dans le Magnificat. Elle le sait, Marie. Elle a cette certitude impure. Et en même temps, parce qu'elle est une créature et qu'elle vit sur cette terre, dans cette vallée de larmes, doit passer par des épreuves. Et il lui est difficile, parfois, de concevoir qu'elle est vraiment la mère de Dieu, que vraiment son fils va régner sur la terre. Lui, pensez à Cana, pensez au recouvrement des avant-Cana, au recouvrement de l'enfant Jésus. Marie a dû apprendre à être la mère de Dieu. C'est pas facile d'être la mère de Dieu. Elle ne l'a pas acquis en une fois, cette maternité, le jour de l'Annonciation. Il lui a fallu passer par le creuset de la souffrance, par une adaptation progressive à ce fils qui dépassait tout schéma, cadre. Elle a dû lutter contre les ténèbres, contre le désespoir, en voyant son fils sur le chemin de croix, en voyant son fils, lui, qui devait normalement régner, être crucifié et mourir. Voyez cette bipolarité dans la foi de Marie. Une certitude absolue d'être bien la mère de Dieu et que son fils allait régner, et en même temps, les ombres et le caractère pénible du doute qui l'assaillait, auquel elle n'a jamais, jamais, même situation que Marie, mère de Dieu, qui attend le règne de son fils. Nous avons nous aussi la certitude absolue que Jésus va régner et que nous pouvons, nous, chrétiens, enfanter Jésus dans les âmes par notre prédication, par notre témoignage. Et en même temps, chaque jour que Dieu fait, nous doutons, peut-être un peu plus malheureusement, que ce règne puisse advenir un jour et que ce travail d'enfantement des âmes puisse continuer, tellement nous sommes opposés à un mur, cette société occidentale athée ou pire, agnostique, facilement agnostique, qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui préfère vivre, ou plutôt ramper, que d'enfin se lever et d'obéir à son Dieu. Vous voyez que l'Église doit suivre l'exemple de la Vierge Marie. Elle passe par les mêmes fourches codines, par cette certitude de foi que le Christ règne, et en même temps par ses doutes perpétuels. Voilà pourquoi le Saint-Père a voulu que nous commencions cette année de la foi par la maternité divine, la célébration de la maternité divine, qui est préalable indispensable à la célébration du Christ, roi de l'univers, qui est la fin de notre foi. Voilà l'esprit dans lequel nous devons vivre cette année de la foi, mes frères. Pas avoir peur du monde. Le Christ règne, j'ai vaincu la mort. Il est roi. Maintenant, de faire advenir ce règne dans les plus petites parcelles, dans tous les replis de notre pauvre petite existence. La deuxième partie, mon homélie sera beaucoup plus courte, je vous rassure, et peut-être un peu plus terre-à-terre, les moyens, après l'esprit, les moyens que le Saint-Père promeut. Eh bien, celles qui vont vous prendre à rebrousse-poil, j'en suis navré, mais voyez-vous, je suis pas. Il y a deux sources auxquelles le Saint-Père veut que nous nous nourrissions cette année. Concile Vatican II et le catéchisme de l'Église catholique. Alors, le Concile Vatican II, j'en vois qui haussent les épaules ou qui font des grimaces. Mes frères, très honnêtement, garde ce concile des réserves. Pas dans l'institut auquel j'appartiens, ce n'est pas des réserves. Il revient à notre institut, c'est dans nos statuts, de procéder à la critique constructive du constructif. Finalement, les textes du concile vont être nous, à une formation théologique, faire face à l'enseignement de 2500 pères et de deux papes successifs. Je crois qu'il faut être un peu sérieux. Ces textes-là, il faut y revenir. En faisant un tri, c'est certain. En faisant un tri et en comprenant, parce que le Saint-Père nous y exhorte, en comprenant ces textes à la lumière de la tradition. N'était-ce pas la revendication de Mgr Lefebvre, précisément. Cette herméneutique de la continuité. Il est très important que nous revenions à ces textes dans une herméneutique de la continuité. Le Saint-Père est le premier à dénoncer toute sorte de rédaction même des textes, et ce qui est intéressant avec ce pape. Encore faut-il, il nous tend la main, que nous la prenions cette main et que vraiment nous utilisions les textes du Concile en y discernant de bons grains de livret, à l'aide du Saint-Esprit et du Magistère, parce que qui sommes-nous, et en nous nourrissant de ce que ce Concile peut avoir de nourrissant. Quand un texte, c'est ce que disait le fondateur de ma communauté, supérieur général pour l'instant, quand un texte contient 80% de citations patations de l'Écriture sainte, comment voulez-vous qu'il soit hérétique ? Les Conciles Vatican II, d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments profondément catholiques. Voilà. Ça, c'est la première chose. Le deuxième document sur lequel le Saint-Père aimerait que nous planchions, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Ce catéchisme de l'Église catholique, alors là encore, on y a vu une sorte de trahison du catéchisme du Concile de Trente, du catéchisme de Saint-Pie X. Ce catéchisme de Paul II, puisque c'est ainsi qu'il a été identifié à Jean-Paul II, n'est en fait qu'un retour à la doctrine thomiste. Il y a de Toulouse et de Fribourg notamment, avec des noms, pas parce qu'ils sont trop longs à énumérer, de thomistes éminents, qui sont les mêmes qui discutent à l'heure actuelle avec la fraternité Saint-Pie X. Et donc intéressant, notez cela. Le Saint-Père veut que nous utilisions le catéchisme de l'Église catholique comme une clé de lecture. Thomiste, il ne l'est pas lui-même, mais il reconnaît la valeur pérenne du docteur angélique, de saint Thomas, pour lire le Concile Vendeux. Je vous fais remarquer qu'au moment de sa promulgation, le catéchisme de l'Église catholique a fait grincer des dents dans l'Église, parce qu'on considérait que c'était là un retour à l'abominable théologie tridentine, après la belle pause bisounours du Concile Vatican II. Et qu'on peut puiser dans ce concile, dans ce catéchisme de l'Église catholique, des éléments fondamentaux. Et c'est dans cette perspective de l'année de la foi, parce que le Saint-Père demande à toute communauté, à toute réalité ecclésiale, pour parler selon le jargon actuel, nos bons évêques, eh bien, c'est parce que le Saint-Père demande que nous planchons vraiment, concrètement, que je vous propose de procéder par quatre petites récollections, d'une demi-journée, plus pas quand même, plus une messe, plus un apéritif, sur quatre constitutions majeures du Concile Vatican II. Une constitution sur l'Église, Lumen Gentium, une constitution sur la parole de Dieu et la révélation, Dei Verbum, une constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, et la constitution Gaudium et Spes, celle qui fait le plus grincer dedans, sur le dialogue entre l'Église et le monde, la place des chrétiens dans le monde actuel. Dernière constitution, une partie pérenne, il y a également une partie caduque. Mais je pense intéressant d'aller se plonger dans ces textes-là et de voir vraiment ce que l'on cherche à nous y enseigner, et tout cela à l'aide du catéchisme de l'Église catholique, quatre sujets. Des termes peut-être plus clairs, des termes peut-être moins ambigus. Voilà, je n'ai pas encore fixé les dates exactes, mais je pense que nous serions fidèles au Saint-Père si nous donnions la peine de procéder ensemble à cet travail. Voilà, peut-être certains préjugés tomberont, et en même temps, peut-être certaines, effectivement, critiques, que nous n'aurions même pas songé à faire seuls, trouveront là un fondement, effectivement, et il nous faudra, alors à ce moment-là, eh bien, interroger le texte, comme on dit, et faire un travail de... Non, un travail d'exégèse, un travail d'interprétation de cet expert vœu. Voilà donc, je crois, ce que tout simplement, puisqu'il est le doux Christ en terre, ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut pour nous cette année. Que nous allions nous coller à ce texte-là pour y déceler peut-être des choses pour nous nourrir, peut-être évidemment pour nous nourrir, nourrir cette vie de foi qui tend vers le règne du Christ, Père, du Fils et du Saint-Esprit.